Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Jordan Peterson et de la question juive. Suite à la vidéo que j'ai diffusée sur YouTube le dimanche 25 août 2019, beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des questions en message privé en me demandant: que penses-tu de Jordan Peterson et de la question juive? J'ai entendu qu'il était sioniste. Est-ce que tu valides cette opinion? Que pense Peterson d'Israël? Que pense Peterson de la question israélienne d'une façon générale? Et je me suis dit qu'il serait intéressant d'apporter une réponse à cette question. Bien évidemment, je ne pourrais pas le faire sur YouTube parce que YouTube est un média qui est très surveillé, très censuré. Et je suis sûr qu'au moment où je posterai la vidéo sur YouTube, elle sera strikée, elle sera supprimée. Et même si elle n'est pas supprimée à cause du contenu, elle sera supprimée à cause des commentaires. Parce que le conflit israélo-palestinien est très, très, très passionné. Le débat autour de cette question finit toujours par passionner les foules, et dans les commentaires, j'aurai certainement des choses qui feront que cette vidéo sera de toute façon supprimée. C'est très dur de mettre les gens d'accord autour de cette question, et c'est toujours un sujet hyper hyper compliqué à traiter, et tous ceux qui s'y sont aventurés ont fini publiquement par se casser les dents. Donc, un sujet très délicat, mais un sujet qui mérite d'être abordé parce que c'est une question malheureusement qui est censurée dans les médias, et on ne peut plus aujourd'hui parler de la question juive, parler de la question palestinienne, parler du conflit israélo-palestinien sans être traité de sioniste, sans être traité d'antisémite par un camp ou par l'autre. On finit de toute façon par se faire des ennemis. Mais aujourd'hui, c'est de façon rationnelle, presque scientifique, que je voulais analyser cette question au travers de Jordan Peterson. Donc, que dit Jordan Peterson en parlant des Juifs et de la question juive, et que dit-il en parlant du sionisme? On va commencer par la question juive. Jordan Peterson avait parlé il y a très longtemps sur son site et avait écrit un article qui s'intitule On the so-called Jewish question, au sujet de la question juive. Et Jordan Peterson, en réalité, explique la domination juive du monde par le quotient intellectuel des juifs ashkénazes. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en moyenne, les juifs ashkénazes ont 15 points de quotient intellectuel de plus que les autres. Et donc, ce qui est énorme, ce qui est beaucoup. Et il explique que forcément, partout où ils sont, partout où ils se déploient, les juifs finissent par devenir une élite. On peut observer ça à New York, à Paris, à Londres, à Moscou, partout où on a une petite communauté juive, on finit par les trouver dans tous les business. Ils sont derrière les boutiques de bijouterie, ils sont derrière les agences immobilières, ils sont dans la finance, ils sont dans tout ce qui contrôle le marché d'une façon générale. Et Jordan Peterson évite de parler de complot parce qu'il dit à un moment, il faut arrêter constamment de parler de complot parce que partout où tu laisses les juifs, même s'ils arrivent nouvellement dans un pays, dans une petite communauté où ils ne connaissent personne, tu les laisses un an dans la nature et ils finissent par te créer des bijouteries, des agences immobilières, Il y a quelque chose intrinsèque au juif qui fait qu'il a le sens du commerce. Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que ça se transmet? C'est une vraie question. Mais on ne peut pas nier le fait que partout où les juifs se déploient, ils développent du commerce. Et Jordan Peterson dit que cela finit par agacer, parce qu'un tel niveau de domination finit par agacer les peuples locaux, et c'est pour ça que les juifs finissent par se faire chasser de partout où ils arrivent depuis des milliers d'années. C'est un peu comme le premier de la classe, et forcément, quand le premier de la classe reste premier de la classe tout le temps et qu'il écrase tous les autres, eh bien à un moment, tu commences à créer du ressenti, et les locaux qui voient le prix de l'immobilier monter, qui voient leur boutique accaparée par une diaspora juive, développent du ressenti et commencent à développer de la haine et à avoir envie de chasser les juifs de la ville, du village ou du pays où ils se trouvent. Et ça dure depuis 2000 ans. Mais là où l'analyse de Jordan Peterson n'est pas juste, c'est qu'on ne peut pas baser cette domination et cette réussite exclusivement sur le quotient intellectuel. Pourquoi? Si on prend l'exemple des États-Unis, il y a 6 millions de Juifs aux États-Unis et il y a en comparaison 200 millions d'Américains blancs. Dans les 200 millions, ou parmi les 200 millions d'Américains blancs, il y en a bien 30% qui ont 15 points de quotient intellectuel de plus que les autres. On va dire que des études ont montré que le top 30% des Américains blancs ont 115 de QI et plus, 115 de quotient intellectuel et plus. Et 30%, ça fait 66, presque 67 millions d'Américains, comparé à 6 millions de Juifs. Donc il y a pratiquement, à quotient intellectuel égal, 10 fois plus d'Américains blancs d'autres confessions, chrétiens, catholiques, protestants, mais essentiellement protestants, que de Juifs. Donc normalement, on devrait trouver chez les prix Nobel 10 fois plus d'Américains blancs non juifs que d'Américains juifs. On devrait trouver chez les milliardaires 10 fois plus de milliardaires blancs non juifs que de milliardaires blancs juifs. Mais lorsqu'on observe les chiffres, c'est autre chose qu'il se passe. Par exemple, chez les milliardaires américains, on va noter 40% de juifs. Ils sont 10 fois moins, mais ils représentent pratiquement un milliardaire sur deux. On va observer la même chose chez les prix Nobel. Il y a 20% de prix Nobel d'origine juive, alors qu'ils ne représentent que 0,2% de l'humanité. Donc, cette question du quotient intellectuel qu'a soulevé Jordan Peterson ne se justifie pas, hein, il ne peut pas avoir toujours raison, et sur ce sujet-là, il a tort, parce que à quotient intellectuel proportionnel, on note quand même et malgré tout une supériorité des juifs. Donc là, ce qui rentre en jeu et ce qui fait la réussite du juif d'une façon générale, ce n'est pas uniquement le quotient intellectuel, mais il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Et un des éléments qui rentre en jeu, c'est le communautarisme. Le peuple juif est un peuple communautaire, tout comme la religion juive est une religion communautaire. Chez les juifs, il y a la notion du peuple élu. Le peuple élu veut dire que tous les autres ne sont pas élus. Les gentils, comme on les appelle, ne sont pas élus. Il n'y a que, d'après le Premier Testament, il n'y a que le peuple juif qui a le droit ou qui a l'accès à Dieu. Il n'y a que le peuple juif étant élu, qui est élu donc par ce Dieu unique qui l'a choisi, et tous les autres n'ont pas le rang d'humain, on va dire. Ils n'ont pas le droit d'avoir accès à Dieu. Chose que le catholicisme et que Jésus a complètement explosé, parce que la première chose qu'il a fait, en retournant les tables des marchands du temple, il a dit bah, « Dieu appartient à tout le monde ». Le catholicisme, le Nouveau Testament, a fait exploser cette notion de peuple élu et a dit, on est tous élus, on a tous accès à Dieu, on a tous accès au paradis, on a tous accès à la croyance. On ne peut pas accepter qu'un seul peuple, qu'une minorité, s'accapare le droit d'avoir un Dieu et tous les autres, des gentils, qui ne sont pas considérés comme des humains et qui n'ont pas accès à Dieu. Donc, il y a une vraie différence dans la pensée entre le communautarisme juif et l'universalisme chrétien catholique. Et donc, de par cette notion communautaire, il y a beaucoup d'entraide chez les juifs. Les juifs s'entraident énormément entre eux. Ils se donnent mutuellement des postes, ils se donnent mutuellement accès aux postes d'enseignement dans les universités. Une université avec un président juif va donner plus de bourses à des étudiants juifs. Et donc, il y a une question communautaire. Et là, encore une fois, hein, j'espère que mes propos ne seront pas détournés. Je ne parle pas de complot, je parle d'un communautarisme comme il existe beaucoup chez d'autres peuples aussi. Les Chinois sont communautaires. Les Chinois se vendent des logements entre eux, se vendent des commerces entre eux, ils se prêtent de l'argent entre eux sans aller à la banque. Aujourd'hui, un Chinois à Paris qui veut acheter un logement, il se fait prêter de l'argent par d'autres Chinois, il l'achète cash, donc beaucoup moins cher, et il rembourse ensuite sa communauté. Ils vivent à l'extérieur du système bancaire, ou du moins en partie à l'extérieur du système bancaire. Et pourtant, est-ce qu'il y a un complot chinois mondial? J'en suis pas sûr. Donc, ne pas confondre communautarisme avec complotisme. Si on prend l'exemple des Arabes, par exemple, les Arabes ne sont pas communautaires. J'ai travaillé avec des Qataris pendant 5 ans ici en Angleterre et les Qataris n'embauchent pas d'autres Arabes. Les Qataris embauchent des Anglais, des Américains, des Australiens. Tu débarques dans une agence, moi j'étais pratiquement choqué, c'était une agence d'investissement immobilier. Le propriétaire ou le président était Qatari. À l'intérieur, tu n'avais pas un seul arabe. T'avais une petite secrétaire blonde british, t'avais des vendeurs en costard plus british tumeur, et le seul que je ne qualifierais pas d'arabe parce qu'il était libanais chrétien. Et les Libanais, on va dire qu'ils ont plus de sang grec et romain que de sang arabe. Il y a une grande incompréhension au sujet du peuple arabe, entre guillemets. Nous, on appelle tout le monde arabe, les Africains du Nord, les Libanais, les Saoudiens. En réalité, les Arabes sont les habitants de la péninsule arabique, Arabie Saoudite, Qatar. Les Africains du Nord sont arabisés, mais ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Berbères. Tu regardes le morphotype d'un des princes de la famille qatari ou saoudienne, tu regardes un Al Thani, par exemple, de la famille du Qatar, et tu regardes Zidane, qui est un Berbère d'Afrique du Nord. Tu comprends tout de suite que ce n'est pas les mêmes morphotypes. L'Afrique du Nord a beaucoup été métissée avec les Phéniciens, avec les Romains. Donc ce sont des Berbères arabisés et non pas des Arabes comme on les appelle en France. Et d'ailleurs, en Angleterre, on n'appelle pas les Africains du Nord des Arabes. Hein. On les appelle North Africans ou bien Moorish, des Maures ou des Mauresques. Mais les Britanniques qui connaissent, eux, le monde arabes qu'ils ont colonisés, Arabie Saoudite, Émirats, Qatar, ils connaissent très bien le monde arabe, bien plus que la France. La France n'a pas vraiment eu de colonies dans le Moyen-Orient. On est un peu resté au Liban, la France connaît très bien le Liban, il y a beaucoup de liens d'amitié entre la France et le Liban est resté encore un pays francophone, et Beyrouth est peut-être la capitale francophone du Moyen-Orient. Mais à part ça, on n'a pas trop de liens avec le Moyen-Orient. C'est pour ça qu'on confond les Arabes avec les Nord-Africains, qu'on croit être aussi Arabes. Chose que les Anglais ne font pas. Ils font une très claire distinction, et même les Américains d'ailleurs, entre l'Afrique du Nord, North Africa, quand tu es Algérien, Marocain, Tunisien, aux États-Unis, tu es North African, tu n'es pas un Arabe. Et ils savent très bien que les Arabes, c'est les Saoudiens, les Qataris, les Émiratis. Petite parenthèse. Et donc, il n'y a pas de solidarité chez les Arabes. Ils ne vont pas embaucher des arabophones parce qu'ils pensent que voilà, ils ont la même religion, la même langue, la même culture. Non, ils vont embaucher des British parce qu'ils pensent que c'est mieux pour leur business, parce qu'ils pensent que tu as un commerce à Londres et vaut mieux pour des clients londoniens avoir des représentants qui leur ressemblent. Hein, ça fait vendre plus facilement. C'est meilleur pour les affaires, tu vois. Alors que dans une agence d'avocats juifs ou dans une agence immobilière juive, tu as de la chance ou tu as la chance, pardon, de trouver beaucoup de juifs. Il y a une notion communautaire chez le juif qui va aider sa communauté que tu ne trouveras pas chez l'arabe, par exemple. Et d'ailleurs, même au niveau géopolitique, on peut se demander comment Israël arrive à survivre. Israël, entouré de tous ces pays arabes, t'en as pas un qui est capable de lever le moindre petit doigt, parce qu'ils ne sont pas solidaires. Les Saoudiens sont pro-israélites, les Qataris sont pro-israélites, les Syriens sont contre. Les Iraniens, qui ne sont pas des Arabes, mais qui sont des musulmans, sont contre. Donc, il n'y a pas d'unité du monde musulman face à la question israélienne. Donc, forcément, forcément, un État comme Israël peut exister à cause de tout le chaos et du manque de solidarité des pays musulmans. Il n'y a pas de communautarisme musulman et il n'y a pas de communautarisme arabe. Et c'est pour ça que jamais, jamais, ils ne réussiront à faire quoi que ce soit contre Israël. Israël, qui a une communauté juive à l'intérieur et à l'extérieur, extrêmement solidaire, extrêmement active et qui verse beaucoup d'argent. Je rappelle que les Qataris n'ont pas versé un centime pendant la guerre civile en Syrie. Et je rappelle que les Qataris n'ont pas accepté un seul réfugié syrien chez eux. Les Qataris, les Saoudiens et toutes les monarchies pétrolières du Golfe. Pas un seul. Tu as des réfugiés qu'on envoyait envahir l'Allemagne, la France, l'Angleterre. Et à côté, tu as des monarchies pétrolières milliardaires qui ont de l'argent à ne plus savoir quoi en faire. T'en as pas un seul. T'as pas un seul pays qui a accueilli un seul réfugié. T'as même des territoires palestiniens en pleine guerre civile, qui ont accueilli des civils syriens, et des pays comme le Qatar, qui vivent la paix, qui vivent l'abondance, qui vivent la richesse, qui ont besoin de main-d'œuvre et qui ramènent de la main-d'œuvre du Pakistan, du Bangladesh, d'Inde, et qui n'ont pas accueilli chez eux un seul réfugié syrien. Donc, c'est pour expliquer que on ne peut pas uniquement critiquer la solidarité juive, on peut aussi critiquer le manque de solidarité chez les musulmans et chez les arabes. Parce que on remarque qu'ils parlent beaucoup, qu'ils sont beaucoup à manifester avec les drapeaux palestiniens, mais quand on regarde les faits, combien de pays arabes donnent de l'argent à la Palestine? Combien de pays arabes contribuent à envoyer de la nourriture? Combien de pays arabes à l'ONU défendent la position de la Palestine? Eh bien, il y en a très peu. Il y en a très peu. Et la Palestine est assez isolée face à la solidarité en face qu'il y a autour des Juifs. Donc l'une des analyses que manque de faire Peterson, c'est qu'il est ancré ou il est peut-être un peu trop focalisé sur la quotient intellectuelle ou sur le quotient intellectuel des Ashkénazes qui est supérieur à qui est en moyenne supérieur aux autres peuples, mais en réalité ça ne se vérifie pas parce que ça ne se vérifie pas par le nombre de prix Nobel, hein. Incroyable de constater que 0,2% de la population mondiale rafle 20% des prix Nobel, et on peut pas aussi accepter, ou du moins on peut pas aussi comprendre, que 6 millions de juifs aux États-Unis et 1 milliardaire sur 2 est juif. C'est complètement, les statistiques ne se vérifient pas. Donc il faudrait ajouter à ce, entre guillemets, quotient intellectuel, à prendre avec des pincettes, qui serait plus élevé chez les Ashkénazes, il faudrait ajouter le communautarisme juif extrêmement puissant, et moi je dis, au lieu de le critiquer, eh bien soyons communautaristes. Si les Français étaient communautaristes et ils cédaient entre Français, et si les Américains étaient patriotes communautaristes et qu'ils cédaient entre Américains, eh bien ils auraient peut-être plus de gens de leur origine ou de leur foi ou de leur, ça dépend comment on voit la communauté. Est-ce que c'est la communauté religieuse? Est-ce que c'est la communauté raciale? Est-ce que c'est la communauté ethnique? On peut voir ça comme on veut. Mais s'il y avait plus de solidarité et plus de communautarisme chez les autres peuples, peut-être qu'il y aurait aussi un niveau de réussite plus élevé. Autre chose aussi qui fait que la théorie de Peterson ne se vérifie pas, c'est que en France, on n'a pas vraiment de domination Ashkénaze aussi forte qu'aux États-Unis, parce qu'en France, on a aussi des Séfarades. Les Séfarades, je le rappelle, qu'on a récupérés en France ou qui ont immigré en France après la décolonisation. Donc, grâce au décret Crémieux, beaucoup d'Africains du Nord ou de Juifs Séfarades d'Afrique du Nord sont devenus français. Et donc, à l'indépendance de l'Algérie, à la libération du Maroc, Maroc qui était un protectorat, pas une colonie, l'Algérie est un département français et la Tunisie était un protectorat également. Mais donc, à la fin des deux protectorats, Tunisie-Maroc, et à la fin de la colonisation en Algérie, eh bien, tous ces Juifs Séfarades sont, étant français, sont arrivés en France. Et à la base, le juif séfarade, c'est un Africain du Nord. Faut arrêter de se raconter des histoires. Et j'ai même parlé avec des juifs ashkénazes qui me disent, entre nous, les ashkénazes ne considèrent pas les séfarades comme des juifs égaux. Tu vois, pour l'ashkénaze, le séfarade, c'est un peu les boulettes, Enrico Macias, Hanouna, la danse du ventre. C'est pas vraiment la technologie et la science. Tu vois, d'un côté, t'as les Ashkénazes avec Newton, Einstein, c'est plutôt la science, les prix Nobel, la technologie, la finance. Et de l'autre côté, t'as les Séfarades et c'est plutôt les boulettes, la danse, l'audiovisuel, la télé, etc. Et donc, le Séfarade, qui est un Africain du Nord, qui n'a pas un quotient intellectuel supérieur à tous les autres Africains du Nord, et donc la domination des Séfarades en France ne s'explique pas par le quotient intellectuel. La domination écrasante des Séfarades dans les médias en France ne peut s'expliquer que par une présence communautaire, ou plutôt de par un fonctionnement communautaire extrêmement puissant. Et on ne peut pas nier la puissance de ce fonctionnement communautaire. Et même dans des pays où les juifs ont des conditions très restreintes, comme en Iran par exemple, et je vous mettrai en description de ce podcast une vidéo qui parle, c'est un documentaire qui parle des juifs en Iran. Les juifs sont protégés par l'État iranien, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils vivent très bien en Iran, ils ont des restrictions. Ils ne peuvent pas être dans l'armée, ils ne peuvent pas être dans l'enseignement, hein, ils ne peuvent pas être professeurs à la fac, à l'université, mais tout le reste, ils peuvent le faire. Eh bien, bizarrement, même dans un pays où il n'y a pas de lobby juif, hein, ça, c'est très très difficile de monter un lobby juif en Iran, c'est l'un des pays les plus anti-sionistes au monde. Eh bien, ils font pareil que dans les autres pays. Ils sont bijoutiers. Ça m'a fait rire d'ailleurs. On montrait l'exemple d'un gars. Ils l'ont pris au hasard. Hein, tu vois, ils l'ont pris. Ils l'ont pas vraiment choisi. Et ils l'ont montré en parlant de sa vie, parlant du juif en Iran, de la condition du juif en Iran. Et le mec est pris au hasard. Et devinez quoi? Il fait quoi dans la vie? Il est bijoutier. Il est bijoutier. C'est comme, tu vois, tu jettes un chat en l'air, il retombe sur ses pattes. Tu jettes un juif en l'air, il fait bijoutier. C'est une nature seconde, au-delà du complot, au-delà de toutes les aides qu'on pourrait imaginer, si le complot existe. Et bien, tu constateras la même chose. Tu laisses des juifs en slip dans la nature, tu reviens un an après, les mecs, ils ont monté des bijouteries, des magasins, des usines, des tanneries de cuir, etc. Il y a quelque chose chez ce peuple, il y a une solidarité, il y a une vision du monde, il y a une force culturelle qui fait que quand tu les laisses quelque part, ils finissent par dominer. Et là où l'analyse de Peterson est juste, hein, si elle est complètement fausse sur la question du quotient intellectuel, là où elle est juste, c'est que cette domination écrasante finit par agacer. Et c'est là où les Juifs se font détester, c'est que cette domination écrasante qui finit par aliéner les locaux, parce que tu es invité quelque part, hein, quand tu es une minorité dans un pays ou dans un peuple, tu es invité parmi ce peuple. Donc tu dois faire preuve de décence. Et à un moment, si tu arrives dans une rue, c'est comme quelqu'un qui arrive dans un nouveau quartier, tu vois. On va dire que t'es pas de là, t'es pas de ce coin, t'as un petit accent, t'es pas né dans le coin, t'as pas d'amis d'enfance dans le coin, t'es un étranger. T'arrives, si t'as une petite réussite et tu fais partager tes voisins que t'as une petite réussite qui contribue à la communauté, tu te fais accepter. Tu vois, les gens, ils se disent, le mec, il est arrivé, il a une petite réussite, ils nous ont fait partager, il profite à toute la communauté. Et t'arrives, malgré ta réussite, à ne pas te faire trop de jaloux parce que tu t'es quelque part intégré. Mais si t'arrives quelque part, que tu montes une affaire qui marche très bien et t'embauches personne dans le coin, tu ramènes un autre mec comme toi et tu ramènes encore un troisième mec de ta tribu et tu montes une rue ou tu crées une rue où il y a que des gens de ta communauté, forcément tu te fais détester par les autres, tu vois. Quand t'arrives dans un quartier sensible. La meilleure chose à faire, tu vois, si tu montes une boutique dans un quartier sensible, tu vois, et t'as peur de te faire piller, de te faire voler, bien, la première chose à faire, t'embauches un gamin du coin. T'embauches un gamin du coin qui connaît tout le monde et les gens vont pas vouloir mettre le feu à ta boutique parce qu'ils vont se dire, eh bien, il y a le petit gamin, là, le fils d'un tel avec qui j'ai grandi, qui travaille là-bas. Donc, t'embauches un ou deux locaux. Garçons du coin qui connaissent le voisinage, qui connaissent les gens, et t'es sûr, de par cette intelligence, de mieux te faire accepter parce que t'as réussi en créant un commerce et en gagnant de l'argent, mais t'es en train de faire profiter la communauté où t'es arrivé. Et c'est là où tu te fais accepter. Et le problème de la question juive, c'est que à aucun moment ils ne font profiter les autres. C'est ce côté communautaire où le juif embauche du juif. Et crée des communautés très fortes et des lobbies très forts, finit par agacer tous ceux qui sont autour et qui n'arrivent pas à avoir ce niveau de réussite, tout simplement parce qu'ils n'ont pas ce niveau de solidarité. Les gens ont plus tendance à se taper les uns sur les autres que de s'aider. Si les gens étaient beaucoup plus solidaires, beaucoup plus solides entre eux, beaucoup plus unis, jamais, on aurait autant de misère et autant de pauvreté. Aujourd'hui, les gens ont plus tendance à se faire la guerre et à se jalouser qu'à s'entraider. Et donc, quand tu as des communautés comme les Juifs ou comme les Chinois d'ailleurs, si on regarde ce que sont en train de réussir les Chinois à Paris, c'est incroyable. Ils sont en train de racheter, ils ont racheté le Sentier. Le Sentier, c'est plus un quartier juif, c'est un quartier chinois aujourd'hui. Et donc, aucun petit Français n'arrivera, ou aucune communauté française n'arrivera à rentrer en compétition avec la solidarité chinoise et avec le communautarisme chinois. Tu ne peux pas, c'est impossible. Et donc l'analyse de Peterson concernant la question juive, elle est vraie pour une partie et fausse pour l'autre. Elle est complètement fausse pour la question du quotient intellectuel parce qu'elle ne se vérifie pas, ni sur le pourcentage des prix Nobel, ni sur le nombre de milliardaires juifs américains. Par contre, sa question sur la réussite écrasante des juifs, qui fait forcément qu'ils génèrent de la jalousie, du ressenti et de la haine partout où ils arrivent, elle est quelque part juste. Et ce qui agace, ce n'est pas le juif tel quel, mais c'est le communautarisme extrêmement puissant qu'il génère partout où il arrive. Sur la question israélienne, ou sur la question de l'État d'Israël ou des colonies, Peterson est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus prudent. Et ça, il faut le comprendre, hein, comme je l'ai dit, c'est un sujet où tu risques de te brûler dès que tu mets le doigt, hein, où tu te mets tous les juifs de la terre sur le dos, où tu te mets tous les arabes de la terre sur le dos, mais quelle que soit la façon dont tu abordes la question, tu finis quelque part par avoir tort. Donc il est très prudent en disant, et il apporte quelque chose de... Il apporte un argument qui est défendable, ou je veux dire, du moins, il apporte un argument une analyse qui mérite d'être regardée. Il dit, les frontières au Moyen-Orient, elles résultent de quoi lorsqu'on parle d'État-nation au Moyen-Orient? L'État-nation, dans ces zones-là du monde, n'a jamais existé. L'État-nation, les pays tels que l'Arabie Saoudite, tels que les Émirats, tels que le Qatar, même la Libye, quand on regarde les frontières qui forment de lignes droites comme si elles avaient été dessinées à la règle, eh bien ces États-nations sont le résultat de l'effondrement après la Première Guerre mondiale en 1918 de l'Empire ottoman et du redécoupage des cartes par la France et par l'Angleterre. Donc ces États-nations ne sont pas des États très très anciens ou très vieux, c'est le résultat du redécoupage du Moyen-Orient après la chute de l'Empire ottoman. Et donc, il dit, quelle est la vraie valeur de ces frontières? Quelle est la véracité de ces frontières? Donc là, c'est un peu dangereux ce qu'il dit, parce que quand on commence à remettre en cause les États-nations, même si c'est une création artificielle, même si ça a été fait après la Première Guerre mondiale, une fois que c'est reconnu par l'ONU et une fois que c'est là, tu les respectes. Parce qu'à un moment, jusqu'à où tu vas remonter? Est-ce que tu vas considérer l'Alsace et la Lorraine aussi comme appartenant à l'Allemagne, parce qu'un jour ça a appartenu à l'Allemagne? Est-ce que tu vas considérer Nice comme propriété italienne, parce qu'un jour, avant d'être récupéré ou annexé plutôt par la France, ça a été ou ça a fait partie du royaume d'Italie? À un moment, si tu n'acceptes pas que les cartes ont été figées et qu'il y a eu une reconnaissance internationale à l'ONU de ce qu'ont été les frontières, tu mets le doigt dans un truc extrêmement sensible. Est-ce qu'il faut récupérer, ou est-ce qu'il faut que le Mexique récupère le Nouveau-Mexique qui a été annexé par les États-Unis? Quand on voit les États-Unis au départ, c'était un pays beaucoup plus petit et le Mexique était énorme. Et il y a même toute la Californie appartenait au Mexique, le Nouveau-Mexique qui en porte le nom appartenait au Mexique. Et il y a même, c'est ce qui explique que toutes les plages et tous les noms de villes en Californie pratiquement ont des noms mexicains. Santa Monica, Santa Barbara, tout ça a appartenu au royaume d'Espagne et après, plus tard, au Mexique. Donc, est-ce que tu vas remonter jusqu'à dire que il faut rendre au Mexique tout ce que l'Amérique lui a pris? Donc, c'est un peu dangereux lorsqu'il fait cette analyse sa façon de dire que les frontières de la Palestine, de toute façon, ont été définies par l'Angleterre et par la France après la Première Guerre mondiale et que de toute façon, ben, on peut les remettre en question. Ben, c'est dangereux parce qu'à ce moment-là, on va remettre en question beaucoup, beaucoup de frontières, dont les frontières des États-Unis. Donc cet argument ne tient pas la route. À un moment, quand la communauté internationale a accepté des frontières, quelle que soit la façon dont elles ont été créées, eh bien, il faut s'y plier. Parce que si tu pars dans cette voie-là, eh bien, les États-Unis vont être le premier pays à être dans la merde avec le Mexique, parce qu'à ce moment-là, ils auront beaucoup, beaucoup, beaucoup de territoires à rendre, et même la Silicon Valley, ben, demain, se retrouverait au Mexique. Le Mexique deviendrait la première puissance mondiale en réindexant la Californie, tu vois? Donc, argument qui ne tient pas. Et est-ce que cela suffit à dire que Peterson est sioniste? Moi, je vais dire l'analyse que j'en fais, et j'ai pas spécialement envie de le défendre, hein. Moi, je pense que j'adhère à beaucoup de ses idées, et quand une idée ne me plaît pas, je vais la contredire, et je ne le vois pas comme un gourou, je le vois comme un penseur. Et c'est normal de prendre le meilleur, de laisser le pire, et tu fais ta sélection dans les choses très intéressantes qu'il va dire, et tu vas laisser de côté les choses un peu moins intéressantes qu'il va dire. Je pars pas du principe que dès que quelqu'un parle, tu es obligé de boire ses paroles et d'écouter tout ce qu'il raconte. Moi, je vais dire que je le considère comme étant prudent, pas spécialement sioniste. Je le considère prudent parce que faut pas oublier, qu'on le veuille ou non, que c'est quelqu'un qui vend des livres, que c'est une personnalité et que tout ce qu'il dit pourrait violemment se retourner contre lui, même si on peut considérer que c'est quelqu'un de très intelligent et de courageux aussi, hein. Il a déjà pris des prises de position très fortes. Mais sur ce terrain-là, c'est un terrain tellement brûlant que tout ce qu'il pourrait dire lui reviendrait dans la gueule à la vitesse de la lumière. Et donc, je pense qu'il fait preuve de prudence. Il essaye de caresser les deux communautés dans le sens du poil. Il n'est pas très violent envers les sionistes et envers la question ou envers les colonies juives. À aucun moment, il va dire radicalement, il faut que ces colonies cessent et que la Palestine redevienne la Palestine. Il va jamais dire ça. Et il n'est pas non plus critique envers les Palestiniens parce qu'il trouve normal qu'un peuple qui était là aussi ait droit à son territoire, ait droit à une vie décente. Donc il est dans la prudence, il est dans le politiquement correct. La question c'est, on peut avoir deux positions par rapport à ça, ou on peut dire, eh bien non, il n'est pas engagé, c'est finalement il a peur de s'engager parce qu'il en connaît les conséquences. Ou on peut dire, ben, c'est pas son domaine, c'est un psychologue, il apporte des analyses psychologiques brillantes et qui font beaucoup de sens, et qu'il devrait laisser le domaine politique à ceux qui le maîtrisent, et qu'il ne devrait pas compromettre sa carrière en mettant le doigt dans un domaine qu'il ne maîtrise pas. Et pourquoi foutre sa carrière en l'air sur un sujet que tu ne maîtrises pas? Autant tu fous ta carrière en l'air sur des questions de psychologie que tu maîtrises, hein, comme la question du ou de socio slash psychologie, comme la question du féminisme, du transgenre, des vraies questions de société. Autant la politique, c'est un autre niveau, c'est un autre niveau, et les politicards peuvent vraiment te pourrir la vie. Et je pense qu'il serait dommage s'il prend position sur la question palestinienne, on fera passer sous silence toutes les choses intéressantes qu'il a pu dire et on ne parlera plus que de ça. Hein, c'est un peu comme l'affaire Dieudonné, c'est un peu comme Alain Soral. Le fait qu'ils aient mis le doigt dans le sionisme et dans la question israélienne, eh bien, ça a occulté dans les médias toute la partie talent, même génie, enfin, les livres d'Alain Soral sur le féminisme, sur la sociologie du dragueur, sur les rapports hommes-femmes, les sketchs de Dieudonné sont brillants. Et le fait qu'ils aient touché à ce sujet-là a occulté complètement tout le reste de leur travail. Et aujourd'hui, tu ne peux plus parler de Dieudonné et tu ne peux plus parler d'Alain Soral sans que tu sois traité d'antisémite. Et c'est le prix à payer, tu vois? C'est le prix à payer. Ils ont mis en géopardie tout leur talent, tout leur savoir, et cette question juive est devenue, a pratiquement parasité, elle a intoxiqué tout le reste de leur contenu. Et au lieu de rester dans l'histoire comme des personnages brillants qui ont soulevé de vrais problèmes de société, eh bien, cette question juive va leur coller au cul jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et c'est une question tellement brûlante que t'as beau avoir 10 prix Nobel en mathématiques, en physique, en tout ce que tu veux, si t'abordes une fois dans ta vie et que tu prends position sur la question juive en disant je suis pro-palestinien, pro-israélien, eh bien on aura oublié tout ton travail. Tout ce qui restera de toi, c'est le fait que t'aies dit je suis anti-sioniste ou je suis sioniste ou je suis pro-palestinien ou tout ce que t'as fait avant, tu vois, il va se résumer à ces deux phrases. Donc, pour résumer, pour répondre à la question initiale de ce podcast, est-ce que Peterson est sioniste? Moi, je dirais non parce qu'il ne s'est pas prononcé officiellement pour l'État d'Israël. Est-ce qu'il est prudent? Est-ce que c'est un homme d'affaires? Oui, il est extrêmement prudent et il ne veut pas mettre le doigt dans un sujet qu'il ne maîtrise pas. Voilà ce que je pense. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés. N'hésitez pas à commenter en dessous de ce podcast. Je lis tous les commentaires et j'aime beaucoup lire les commentaires parce que ça me donne du recul sur ce que je fais. Et je pourrais étendre ce sujet indéfiniment. C'est un sujet tellement compliqué que je pourrais en parler pendant des heures. Mais voilà, voilà ce que j'en pense. Et j'espère vous avoir éclairé un peu plus sur la façon qu'a Jordan Peterson d'aborder la question juive et d'aborder le conflit israélo-palestinien. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.